Nous sommes de retour à la Bourse Disque pour le direct des poches sous les yeux. Cette fois-ci, nous allons interviewer un deuxième invité. Il s'agit de Merle Léonsbon pour son livre « Jesus Elvis Junkie Blues ». Alors, je vous rassure, ce nom de Merle Léonsbon n'est pas son vrai nom, c'est sûrement un nom de plume, hein, mais vous avez sûrement dû le rencontrer dans des bars à Tours. Comment vous le décrire? C'est un dandy post-punk déjanté, décadent, mais non moins poétique. Et il fallait bien deux chroniqueurs, nos meilleurs chroniqueurs de Despoches sous les yeux, pour tenter de percer le mystère ou au moins de cerner le personnage. Je laisse donc Merle Léonsbon aux mains d'Olivier et Pascal.
Voilà, donc on va commencer par écouter une petite chronique faite par Olivier. À toi.
Donc Jesus Elvis Junkie Blues de J.J. Allin à Lux Intérieur, Nick Cave et Stu Spasm, incarnation du vaudou blues déviant dans le garage punk rock'n'roll underground. Le sous-titre du livre de Merle Léonsbon pourrait laisser penser qu'on a entre les mains la thèse d'un doctorant en musicologie spécialiste du swamp rock. Et c'est peut-être pour dissiper cet éventuel malentendu que l'éditeur, le Camion Blanc, a cru bon de faire apparaître juste en dessous de la précision roman. Précision importante puisque dès les premières pages et tout au long des 24 chapitres, plus un épilogue, on découvre une succession de noms de chanteurs ou de groupes ainsi que des titres de morceaux qui semble avoir été collecté par une sorte d'encyclopédiste obsessionnel, pour ne pas dire monomaniaque. Plus que d'une collecte d'ailleurs, il faudrait parler d'une accumulation, d'un entassement, d'un amoncellement de noms étalés parfois sur plusieurs pages. Certains chapitres ne sont même ni plus ni moins que des playlists, tant la masse de références risque de désorienter, sinon d'user le lecteur le plus endurci. Alors si on croise des vedettes comme Nick Cave ou Lydia Lunch ou les Cramps, on rencontre aussi des inconnus aux noms parfois improbables, comme Sheepscum, Porno Dracula, Elvis Hitler ou encore Vaginal Cremation Davis en Robespierre Band. La tentation est grande alors d'aller chercher sur Internet des renseignements sur ces formations du monde entier, puisque le recensement ne se limite pas aux États-Unis mais couvre la quasi-totalité du globe, de Paris à Leipzig, d'Islande en Australie en passant par l'Espagne, ou simplement pour vérifier la réalité de leur existence. Il est probable que si l'on retirait la totalité des noms et titres réunis dans ce véritable guide du routard du garage rock underground, qui compte quand même plus de 400 pages, on réduirait de moitié l'épaisseur de l'ouvrage. Mais ce serait sans doute aussi absurde que de supprimer tous les noms de poissons dans 20 000 lieues sous les mers ou tous les jurons du capitaine Haddock dans une aventure de Tintin. Mais revenons au roman, puisque Jesus Elvis Junkie Blues en est un. Roman dont le héros, si on peut dire, est un certain J.J. Allin. Connaissez-vous J.J. Allin? Ben moi non. Jusqu'à ce que le livre de Merle Léonsbon et un détour par Wikipédia me permettent de combler cette lacune. Donc J.J. Allin, né Jésus-Christ Allin, c'est véridique, en 1956 et mort 37 ans plus tard des suites d'une excessive absorption d'héroïne, est un chanteur de punk hardcore américain dont la discographie s'apparentait, selon un journaliste, à, je cite, « un semi-remorque d'obsession puérile, de concupiscence démente et d'humour au niveau du slip ». Alors il semblerait que la réputation et par suite la notoriété de J.J. Allin aient été forgées moins par ses talents de chanteur ou de mélodiste que par ses performances scéniques durant lesquelles il n'hésitait pas à vociférer à poil, à tabasser ou à se faire tabasser par son public, à se marteler la face jusqu'au sang à coups de microphone ou encore à déféquer sur scène avant de se barbouiller avec sa propre merde. Autant d'excentricités pouvant paraître déplacées, sinon répugnantes pour le commun des mortels, mais relevant, semble-t-il, d'une véritable prise de position idéologique, voire politique, pour J.J. Allin, qui prétendait redonner ainsi au rock'n'roll sa vocation originelle de rébellion et d'anticonformisme. Alors si le cœur vous en dit, et surtout si vous l'avez bien accroché, vous trouverez sur Internet nombre de vidéos qui vous permettront de vous faire une idée plus précise de la chose. Sinon, vous pouvez lire le roman de Merle Léonsbon, qui est, ceci dit, moins une biographie de J.J. Allin qu'une sorte d'exploration d'un certain esprit rock, et dont le style assez particulier risque lui aussi de vous laisser au choix, perplexe, ébloui ou pantois, selon votre humeur du moment et la quantité de substances psychotropes que vous aurez absorbées au préalable. Personnellement, je suis sorti éreinté, véritablement éreinté, de la lecture de Jesus Elvis Junkie Blues. C'est épuisant, souvent déroutant, parfois agaçant, et pas vraiment le genre de livre que l'on ouvre en se disant « je vais passer un bon moment de détente ». Sauf bien sûr si une reprise de Pornographie des Cures par Screaming Jay Hawkins est précisément l'idée que vous vous faites d'un bon moment de détente. Il y a un rythme singulier dans ce livre qui tient à un assemblage de mots dont le sens échappe plus d'une fois à l'entendement, au mien en tout cas, mais dont la musicalité n'est pas sans évoquer plus ou moins lointainement les échappées délirantes de « Pour en finir avec le jugement de Dieu », les hallucinations baroques de l'Autréamont ou les dérapages syntaxiques de la machine molle. Je donne un exemple. Que Aline, même pourrissant, nous expectore d'une voix de latex à oscillatoire malléable, dans un registre surfant félin de la menace à la séduction, de l'irruption grotesque d'entertainment dingue et inquiétant à la fêlure sexy flirtant branque avec la rupture psychotique sur les bords. A priori, c'est le genre de bouquin qu'on a envie de conseiller plus spontanément à ceux qui n'aiment rien tant que pogoter au milieu d'une horde de bikers défoncés au Bourbon, plutôt qu'à ceux qui kiffent l'élégance feutrée d'un roman de Jane Austen savouré au coin du feu en sirotant une tasse de Earl Grey tiède.
J'aime bien aussi.
Mais comme à Radio Béton, précisément, des a priori, on se contrefout. J'ai juste envie de vous conseiller d'aller y voir par vous-même.
Merci, merci Olivier, pour cette chronique, cette présentation un petit peu du bouquin. Mais alors, revenons d'abord, on va faire ça en plusieurs parties. Donc la première partie, revenons un petit peu sur J.J. Allin. Olivier a dit que il s'appelait Jésus-Christ comme prénom, c'est un peu bizarre. Ça vient de son père. Raconte-nous un petit peu.
Exactement. Alors ça, c'est la fascination que le personnage peut exercer au-delà du côté un peu morbide et puis un peu vilain. C'est que bon, c'est vrai que il a vécu quelque chose d'assez difficile depuis sa tendre enfance. On va un peu faire pleurer dans les chaumières et tout. C'est pas la petite fille aux allumettes non plus, mais bon, J.J. Allin, c'est une créature créée par son propre père, une sorte de père dévot mais sans église. C'est un type tel qu'on peut en trouver dans les États-Unis reculés, les fins fonds. C'est une sorte de maniaque qui voyait en son fils la possibilité d'un énième Christ rédempteur qui serait là un peu pour sauver comme un messie la planète. Alors il a élevé son fils et son autre fils dans des conditions d'une précarité extrême. Il était reculé et acculé au fin fond du New Hampshire dans une cabane construite par ses propres mains, et il forçait sa femme et ses enfants à vivre dans une austérité qui était de l'ordre de la maltraitance très forte, puisqu'il demandait à son fils de... Parfois, il enfermait son fils au fond du jardin, dans une cabane, et il lui balançait de la bouffe régulièrement pour lui apprendre ce que c'était que la souffrance. Je parlais... Bon, il y a beaucoup de choses à aborder, mais... Donc, en fait, l'histoire de... Et c'était tout à fait juste. C'est vrai qu'il y a une révolte, il y a quelque chose de... Il y a un cri presque politique, je sais pas, parce que est-ce que c'est conscientisé, oui, de temps en temps, quand la personne paraît lucide, mais l'histoire de J.J. Allin ne peut pas s'extraire de cette histoire de... pater familia
et violent. Il se décrit comme le dernier vrai rocker. Donc c'est quoi un peu la définition du rock pour lui finalement?
Ben en fait, je pense que le rock pour lui, ça pourrait être ce qui était que la définition de l'art pour les actionnistes viennois, mais qui était beaucoup plus intellectuel que l'animal en question, à savoir les actionnistes qui se foutaient sur scène dans les années 50-60 en Autriche, où il fallait vraiment faire reculer le poids de la morale autrichienne étouffante. Alors eux se foutaient à poil pareil, eux se trituraient le sang et se livraient à des performances violentes scéniquement. On peut guère que comparer J.J. Allin à ces gens-là, sauf que lui, il prétend la même chose, c'est renouveler le rock comme tu le dis, arriver à incarner presque quasi de manière christique l'ultime figure rock'n'roll. Mais je pense que le rock pour lui, c'est un prétexte pour ne pas devenir le serial killer qu'il aurait pu être s'il n'était pas monté sur scène.
Alors, on dit qu'il est souvent plus connu d'ailleurs pour ses performances scéniques, non pas musicales, mais le fait qu'il chie sur scène, qu'il s'enduise de sa propre merde ou qu'il la balance sur le public, qu'il soit nu, qu'il s'automutile, qu'il fasse ou qu'il se fasse faire des fellations on stage. C'était un punk rock. Comment tu le classes, toi, dans les étiquettes de la musique? C'était du punk rock?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la musique en soi. Oui. Et là, je te rejoins. Je rejoins notre chroniqueur qui a introduit le truc de manière brillante. À savoir, c'est pas du bon rock'n'roll. C'est pas mémorable au niveau du rock non plus. C'est du rock parce que c'est très bon, en ce sens là c'est super en deux temps, pumpa binaire, etc. C'est pas le type était très mégalo, s'imaginait être quelqu'un qui avait une écriture et une fulgurance très forte en écrivant des morceaux très courts, mais musicalement parlant, ça peut être, moi j'aime bien aussi des fois les Roland Trash qu'il peut y avoir dans certains morceaux, parce qu'ils s'accompagnent mine de rien de types qui sont pas des perdreaux de l'année. Notamment il a un guitariste qui l'a accompagné longtemps, qui est William Weber, qui, pour les gens qui aiment bien les Chrome Cranks, un groupe qui est important dans mon bouquin et qui est quelqu'un qui sait jouer de la guitare blues et punk comme il en faut. Donc c'est C'est rudimentaire, c'est frustre, ça se désolidarise pas de ce qui se passe sur scène, mais c'est pas mémorable au niveau musical. Voilà, ça, voilà.
Et il aime la country aussi.
Oui, parce qu'il est
son côté cutéreux américain.
Exactement. C'est pas dissociable. Le problème de J.J. Allin, c'est toute la faune qui le suit. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dignes d'intérêt peut-être dans l'histoire du punk rock, on va dire libertaire américain, de la contre-culture, mais où ça génère aussi et ça draine une faune un petit peu nauséabonde de type proche des mouvements du sudisme redneck, un peu le plus puant, avec des groupes franchement limite. Mais de toute façon, si on y met une part de morale ou d'éthique là-dedans, ça va vite le bordel, parce que le type appelle au viol, appelle à des choses dégueulasses en fait. Voilà, il y a des moments de lucidité de quelques interviews moi qui m'ont intéressé, que j'ai trouvé touchante, où le type se dépouille de tout, il est pas défoncé, et voilà. Enfin bon, J.J. Allin est un prétexte en ce qui me concerne pour
On reviendra justement sur cette deuxième partie. Qu'est-ce qui t'a poussé
C'est ça.
Il fait aussi du spoken word, enfin des grands discours.
Oui.
Et j'ai vu dans ton bouquin que New Rose, label français, c'est ça? Quand tu parles de New Rose Records, c'est le...
Oui, alors oui. Et Philippe Marie, le Bouif, c'est-à-dire le disquaire historique de New Rose, qui apparaît aussi, qui a son portrait. Mmh. En fait, il a croisé à un moment donné pour un disque ou deux New Rose, mais c'est pas ce qui est le plus éloquent chez lui, parce que c'est du Dio, c'est vraiment l'autoproduction, c'est des petits labels américains. J'ai oublié ta question, Pascal, excuse-moi.
Cette fascination pour le spoken word, c'est parce qu'il croyait en sa propre parole?
Oui, alors voilà, il y a une sorte d'ultra-narcissisme, mais un peu désespéré, et en fait avec une fuite en avant d'autodestruction de plus en plus forte. Tu as tout à fait vu le truc. Et moi, c'est pour ça que j'ai introduit dans mon prologue la fin de ça dès le départ, en fait. Et fin que je convoque à multiples reprises, quitte à m'amuser un peu de manière insolente à remettre en question la thèse Wikipédia, qui était comme si ça serait pas un révisionnisme ou une thèse, de dire que sa mort a eu lieu là, alors que pour moi il y a des multiples morts, parce qu'il y a des multiples régénérescences. Il y a des formes d'antichristique en fait, et christique dans ce bouquin qui revient. Et donc il a fallu contrebalancer avec d'autres figures, voilà, qui me sont plus chères en fait esthétiquement. Voilà.
Bon, on va s'écouter d'ailleurs un petit peu. Merci. Un petit morceau de J.J. Allin pour voir justement c'est quoi ce groupe dont on parle actuellement, ce bouquin. Voilà, c'était J.J. Allin avec I Wanna Fuck Myself, tout un programme. Voilà, donc justement, voyons dans cette deuxième partie, pourquoi avoir choisi J.J. Allin comme sujet, comme fil rouge de ce roman, parce que il a pas une fanbase des mantes, voilà. Ouais. T'es admiratif
de son parcours. Une église de culte.
Oui, t'es admiratif de son parcours ou
non, pourquoi, non, non. Pourquoi en fait, il y a plusieurs choses personnelles, un peu ce que je te disais d'entrée. Pour moi, je pense que en termes de lien, en termes de fil conducteur, c'est quelqu'un d'assez fascinant parce qu'il te permet une passerelle de par tous les protas qui l'ont croisé, et puis de par son parcours, de par son histoire, et puis ce que ça a généré. Il n'est pas l'objet central du bouquin. Et on s'est posé cette question-là, on a fait gaffe à ça, parce qu'il y a un autre sujet principal en soi du livre, c'est le swamp, la musique du Bayou, Vaudou, etc., qui m'est beaucoup plus cher personnellement. Mais par contre, le choisir lui, alors il y a des raisons biographiques personnelles aussi, parce que c'est vrai que j'avais un père qui n'était pas aussi excessif que le père du monsieur, mais qui était quand même aussi dans une espèce de rapport d'ancien hippie anard qui a fini dans une forme de dévotion christique autodidacte assez étonnante. Donc je pense qu'il y a une part cathartique qui existe aussi à travers ce personnage, qui est intéressante en ce qui me concerne. Il y a beaucoup de clés, il y a des choses, ça me choque pas qu'on me croise avec lui, parce qu'il y a des choses qui reviennent, qui me concernent, et non pas faire caca sur scène, hein, je rassure tout le monde. Mais oui, le personnage en lui-même est intéressant pour... Comme bâton témoin, bâton merdeux soit-il, entre beaucoup de choses. Et puis, ce que ça soulève aussi, et ça c'est important, parce que c'est vrai que moi j'aime bien que le roman soit un lieu d'hybridation totale, en fait, parce que de par mon héritage littéraire. Et c'est vrai que ce que ça soulève de questionnement sur le retour un petit peu de la bigoterie, du rapport au religieux, de l'hypocrisie américaine et occidentale sur pas mal de registres. Et donc... Voilà. Et donc, ce qu'en ont fait aussi d'autres gens comme Nick Cave, Iggy Pop ou Genesis Biorich, chacun dans sa forme christique quelque part, d'incarnation ou d'antichristique. Voilà.
Mais c'était un punk débile ou un art performer ?
Non, c'était pas un punk débile. C'est ça qui est terrible. Alors oui, Action Frangin, je pense qu'ils ont pris tellement de substances que, à force, ils ont, bon, comme nous tous, fini par devenir débiles, en fait. Et il y a un vrai questionnement, parce que je pense qu'il a, le mec a été tellement défoncé qu'on, il y a eu peu de moments de lucidité quand on discutait avec lui. Enfin, ce que j'ai pas eu. La chance ou la malchance de faire. Mais non, parce que je te dis, il y a des moments réels où, avec des témoignages à l'appui, où le type est pas con, quoi. Le type est pas con, le type est dans l'excès, le type est dans l'outrance, dans la souffrance un peu, ce espèce de pathos maniériste revendiqué, un peu rococo, supplicien, comme ça, débordant, un peu dégueulasse et pénible, un peu chialant. Mais au-delà de ça, le rôle du frère et de la mère sont assez, assez intéressants aussi psychanalytiquement. Mais...
Alors j'ai vu aussi que son père s'appelle Merle.
Exactement.
Et est-ce que ça a un rapport avec ton pseudo d'écrivain?
Alors peut-être inconsciemment, parce que bon, j'ai pu écouter quand même pas mal de monde, j'ai pu croiser les disques des Scumfucks ou des Cedar Sluts, enfin tous les groupes de J.J. Allin quand j'étais gamin, qui j'écoutais moi plutôt tout en écoutant, en commençant assez tôt l'histoire des Cramps de Nick Cave. J'ai eu ma période punk alterno, voilà, comme tout le monde, on va dire, encore une fois, je sais pas. Mais et donc il y a pu y avoir quand tu vas vers les Dead Kennedys d'un côté ou les Sex Pistols, tout ça, l'adolescence un peu mortifère aidant, tu t'intéresses aux excès de la chair, quoi, et tu tombes sur ce type là et puis ce type là en fait tu le trouves pas terrible musicalement, comme beaucoup de monde, hein, voilà, c'est pas mémorable. C'est pas mémorable.
Dans l'ANR, l'article que l'ANR a consacré à ton livre, ouais, c'est écrit Merle Léonce-Beaune aime à défendre le statut de la femme dans le monde viril rock.
Ah, ça c'était extraordinaire, ouais. C'était le titrage de, oui,
oui,
de la photo.
Ils n'ont pas lu le bouquin. Ben, en fait, parce que on peut pas dire que dans le bouquin la femme soit glorifiée, et c'est pas un bouquin MeToo, on est d'accord.
Alors non, alors le bouquin en lui-même a des passages MeToo, voilà, et j'expliquerai pourquoi, parce qu'il y a tout un chapitre quand même consacré à la scène des Riot Grrrl, des femmes de Seattle, hein, qui étaient dans le sillage donc des Meudonnées, de Kurt Cobain et compagnie, et qui ont été pétries et héritées de toute une esthétique swamp très très forte qui venait des scientistes de l'Australie, qui ont influencé énormément de choses et créé le grunge. Bon, ça c'est autre chose. Et j'analyse ça, j'analyse à ma manière, hein, poétiquement, excessivement, voilà, de manière débridée soit-elle, j'analyse cette scène-là de femmes qui, pour qui c'est violent et douloureux d'être la fan qui suit et qui est violentée par ces types qui se disent punk, salopards, et en fait qui sont aussi réactes que les autres et violentes, voilà. Et donc il y a des femmes qui ont, heureusement, sont montées sur scène et ont crié cette rage anti-redneck puante, et voilà.
D'accord. Et donc le Léonce Bonne,
Alors Merle Léonce Bonne, en fait Merle, j'aimais bien Merle Lagarde aussi, c'est le chanteur de country. J'ai pu écrire pour des groupes australiens et américains, des liner notes en fait. J'ai commencé comme ça en me frayant dans une underground très swamp, très vaudou et tout ça. Et ils m'ont donné comme surnom assez rapidement Blackbird. Donc, je suis ce petit merle là. Merle Léon, je pense que c'est mon attachement aussi qui existe, que ça fait 20 ans. Donc, il faut que je m'essaye de me rappeler est-ce que c'est né d'une beuverie ou pas, je sais pas, je pense pas, mais, et donc aussi lointain que je me rappelle, je pense qu'il y a un attachement fort pour l'écriture fin 19e, on va dire, et la culture qui va avec, inhérent du décadent, dandy, des avant-gardes des années 20, donc il y a un côté fin début de siècle peut-être, un petit peu vieille Europe, et puis contrebalancé par le bon rock'n'roll, on va dire, voilà.
Parce que c'est pareil, dans cet article de l'ANR, il te traite, comme Odile t'a traité tout à l'heure de dandy, alors qu'il y a quand même un chapitre, le chapitre 4, je crois, je hais les dandys.
Exactement, c'est bien ça. Hein. Oui, mais Odile, elle me connaît pas mal, donc elle n'est pas objective, mais en soi, et puis c'est vrai qu'elle m'a croisé aussi beaucoup dans les bars où elle était elle-même, donc. Pour revenir, parce qu'en fait, non, le dandysme en soi, moi, j'aime pas ce qui se passe avec le dandysme, parce que on me parle souvent de dandysme et tout, mais le dandysme, en ce qui me concerne, ce que je trouve désagréable en ce moment, c'est que c'est devenu une attitude très consumériste. Je ne balancerai pas des gens comme Ariel Wiesman ou Edouard Baird, etc., parce que j'ai un attachement pour ces personnages, parce qu'ils ont pu faire d'irrévérencieux et marrants. Bon, ça me fait marrer, mais au-delà de ces personnages-là, qui eux incarnent une certaine sincérité dans leur excès un peu petit bourge, peut-être parisien, il y a eu tout un accaparement d'une faune, parce que j'ai vécu longtemps à Paris, et je voyais cette espèce de truc-là où des gars se disaient du dandysme, d'un individualisme très très fort, et qui se plaignaient de ne pas pouvoir rentrer à Châtelet, au spectacle. Je sais pas, de musique, de world music, etc., de musique indienne, de sitar ou autre, parce que il y avait les intermittents qui bloquaient à l'entrée, tu vois. Donc moi ça me choquait, parce que je voyais bien que le pouvoir en place, Sarko s'est entouré de dandys quelque part, Carla Bruni c'est une dandy aussi, tu vois, Frédéric Mitterrand c'est un peu ça, c'est une espèce de concrétion du dandysme dans tout ce que ça a plus d'individualiste, je trouve ça assez puant. Et il y a un bouquin de Deline là-dessus qui parle chez Scali des décadents, et je malmène les figures dont il parle, parce que dès le départ c'était des gens assez boursouflés, Jean Lorrain, tout ça, c'était pas des gens dans le, par rapport au romantisme qui était plus flamboyant, il y avait quelques petites figures comme ça, gentiment insolentes, un peu encanaillées, bourgeoises en fait, voilà.
Comme le temps passe, on va sauter la pause musicale, mais donc le roman est édité chez Camion Blanc,
les Cramps.
On le passera, le Cramps, mais c'est facile de se faire éditer par Camion Blanc.
En fait Camion Blanc ça a pu se faire chronologiquement par le biais des nouvelles que j'ai pu écrire outre français, on va dire hexagone. J'ai pu avoir la chance après de faire des liner notes pour le Jeffrey Lee Pierce Station, dans lequel il y a Kanta, Iggy Pop et Nick F, ce qui a été génial pour moi, parce que Cypress Groove, un des derniers partenaires de vie de Jeffrey Lee Pierce, m'a invité. Donc j'ai pu faire des liner notes parce que je le suivais un peu fidèlement quand j'écrivais dans des revues, des magazines. Le gars a une mémoire terrible et un remerciement, et j'ai eu la chance, moi, petit écrivaillon français, de pouvoir honorablement y mettre une poésie liner notes dedans. Du coup, la bande à Levavasseur et tout ont été intéressés et tiltés par ce qui se passait. Ils m'ont demandé, on a pu en parler, on a échangé, je ne sais plus si c'était Patrick Foulou qui m'avait branché sur Levavasseur. Et donc, on est arrivé cette histoire de collaboration de nouvelles sur les Gun Club, Motorhead, tout ça. Et du coup, Dom me dit, mais t'as rien dans les cartons en ce qui te concerne, toi. Et je dis, si, j'ai une histoire de 20-30 ans d'une vie.
Et t'en es content de ce... Parce que pas mal d'écrivains disent... Ils font le service minimum, et au niveau promo ils sont quand même pas très bons, et c'est pas Odile qui prétendra le contraire, parce que c'est difficile de voir des exemples promo, c'est difficile de voir tes bouquins d'ailleurs quelque part dans les librairies tourangelles.
Je mouille pas mal la chemise, hein, pour être honnête, hein, ils le savent et tout. Hein, moi j'ai un interlocuteur qui
c'est un peu leur principe quand même, Camion Blanc.
Alors Camion Blanc, il y a toute une histoire de diffusion un peu complexe, un peu. Il y a un Oedipe compliqué avec Camion Blanc et puis ses diffuseurs d'époque, Harmonia Mundi, la Fnac, tout ça, où c'était, il y avait une visibilité qui était extraordinaire. Il y a eu un repli sur soi pour des choix, puis bon, des dividendes, des trucs machin, mais pour des choix aussi, comme tu le dis, on va dire de posture artistique, etc. Et puis éditorial. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai un interlocuteur qui est super, qui est le chef éditorial de Camion Blanc, en l'occurrence, qui ne gère pas tout ce qui est ce rapport financier, rapport de presse, c'est tout qui est complexe, j'en conviens. Ils ont fait le choix de beaux bouquins avec un bel écran. La diffusion est complexe, d'accord. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai eu les coups des franges totales pour un truc qui n'est pas dans l'esprit Camion Blanc habituel. Puis là, je me suis lâché dans un roman, voilà. Alors, je suis un peu gueule de bois, les gars, joker. Voilà.
Alors, Olivier
mais je remercie aussi Dom de Camion Blanc de m'offrir cette belle aventure.
Olivier parle de ton style qui est parfois délirant, hallucinant. On serait en droit de te demander, mais c'est qui ton dealer? Parce que ça a l'air d'être de la bonne, quoi.
Alors, mon dealer est autogénéré par des années d'excès sweat, peut-être quand j'étais plus jeune, et qui ont peut-être des effluves, des relents maintenant. Enfin, il y a toute une tradition littéraire dont je suis pétri, et je suis content parce qu'Olivier, il a parlé d'Artaud, et puis il a parlé de Lautréamont, et puis je me compare pas à ces gens-là, mais c'est vrai que Crevel ou autres ont pu me sculpter personnellement. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute une tradition avant-gardiste.
Une poésie assez complexe parce que c'est une poésie musicale en fait. Tu te sers des mots comme de notes. C'est-à-dire que l'assemblage grammatical parfois est à la limite du compréhensible, mais cet enchaînement de mots provoque quelque chose. Il y a des jeux de mots de manière, c'est truffé de jeux de mots. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas, t'as sûrement fait exprès en tout cas. Mais,
oui, très lacanien. Ouais.
Voilà, et donc c'est.
Ouais, mais bon, il y a tout. Je me m'exempte pas d'être héritier aussi d'une tradition, je sais pas, de Pérec et autres, ou de même. Moi, j'aimais bien les décraquer, Loulipo. Tu vois, il y a un truc qui me parle, quoi, là-dedans aussi.
Mais comme dit Olivier, en cas d'insomnie prolongée, c'est difficile d'en lire 50 pages d'un seul coup, parce que le bouquin demande un effort certain.
Bien sûr. Je pense surtout aussi, comme disait Olivier, ça je le comprends, j'entends bien, les passages en fait, on va dire, où c'est un chant choral, presque un mémorial de convocation, de pléthore de noms, mais qui pour moi chante en fait dans une histoire personnelle et puis musicale, et qui parle, et je sais que ces moments-là, parfois, notamment par rapport au rock français, où j'égrène, hein, voilà, une succession, mais j'essaye aussi, et je le pense honnêtement, dans d'autres chapitres, avoir un mot esthétique ou affectif pour chacun, quoi.
Parce que c'est vrai que le name dropping, il est poussé à son paroxysme parfois.
Oui, ça a été dur à corriger.
Il y en a qui sont inventés ? Ou il y a c'est que du.
Alors ouais. C'est que du existant.
C'est que du existant.
Hein, c'est beaucoup de gens que je ne pouvais pas ne pas mettre certaines personnes. Donc
c'est pour
côté totalisant. Il y a un côté très poétique aussi.
Donc c'est pour étaler au grand jour ta culture encyclopédique.
Non, alors là, ça serait effrayant parce que si c'était perçu comme ça, je l'espère pas et tout, comme un étalage de confiture. Non, parce qu'en fait, des fois. Alors pour te répondre à cette malice, c'est vrai que tu as parlé de choses, tu parlais des insultes d'Adoc, hein, Olivier. Si tu veux, je crois en l'aspect fourre-tout d'hybridation totale et convocation de beaucoup de choses du roman dans sa fonction. Et pour cela, en cela, si tu veux, par exemple, si on regarde Pand, Pand a beaucoup d'incantations dans ses cantos, les convocations d'une espèce de Babylone, de termes comme ça, ou de Babel, on va dire, de termes internationalistes apparaissant comme ça de manière foisonnante. Pour moi, il y a l'histoire de Pérec, il y a Sorrow, par exemple, qui égrène dans Walden des listes très pragmatiques de choses à faire pour pouvoir survivre. J'aime bien cette espèce de moment de convocation presque poétique de l'inutile dans sa poésie, en fait, et le côté chantant, tu l'as dit, et ça me fait plaisir parce que. Quand j'écoute les morceaux, quand j'écoute, je pense avoir une espèce de symbiose très forte avec l'histoire du swamp, de la musique vaudou cryptique. Et c'est vrai que j'ai écrit, j'ai voulu ce chant-là, hein, funèbre à la fois élégiaque, comme sépulcral, comme une sorte de d'hommage à cette musique que j'ai voulu retranscrire esthétiquement.
On trouve des tourangeaux dans la liste. Hein,
oui, il y a des tourangeaux.
J'ai repéré du Billy Kay.
Ouais, bah, BDK, c'est une figure géniale.
J'ai repéré du Mysterious Asthmatic Avenger.
Bien sûr, Crocus, spécial dédicace, oui. Bien sûr.
Du Terche aussi.
Yann, oui. Bien sûr. Yann, Yann, on était au lycée ensemble, ouais. Yann, on était au lycée ensemble à Blois. Et il y avait un début des petits Rock Dactyl Hunters, c'était les premiers Psychobilly avec Arnaud et Yann, etc. Avant même les roller coasters et tout ça. Et puis, il y a BDK, parce que moi, je convoque beaucoup de figures maudites du rock'n'roll. Voilà, et BDK en est une.
Certaines descriptions sont hyper précises, San Antonio, tout ça. Tu as été voir
secrets fait maison. Ouais. Non, mais alors, ouais. En fait, si tu veux, à force de frayer dans cet univers-là, et puis de discuter beaucoup, en fait, ça fait 20 ans, 30 ans, quelque part, j'interview pas mal de monde, tu vois, que je me nourris. J'ai pu voir sur place, oui, parce que j'aime bien les extensions. Il y a l'histoire de Nikkev qui est très présente. Nikkev est plus important pour moi que JJ Allin. Et je pense que Nikkev ou Luxe Intérieur des Crampes.
Et c'est tant mieux.
Voilà. Et insuffle vraiment leur présence de manière tellurique dans tout le bouquin. À Berlin, j'ai été voir où est-ce qui se passait, ou à Prague, à Londres, à Do, je me suis beaucoup baladé pour trouver des scuds rares en rapport à cette esthétique que j'avais découvert avec les Birthday Party, Gun Club et les Cramps, qui est une sorte de claque émotionnelle très forte pour moi. Donc j'ai été voir comment ça fonctionnait, oui, sur place, mais pas jusque à San Antonio. Et San Antonio, c'est une histoire de fantasmagorie à la fois, et puis de creuser, d'interview, de prise de température très forte, d'une esthétique que j'ai voulu retranscrire de manière cinématographique. Presque.
Voilà. Tu décris aussi une virée en voiture à New York.
Exactement, ouais.
Avec Béatrice Dalle en pauvre fille éclaboussée.
Voilà, spéciale dédicace à Béatrice d'ailleurs.
Ouais. Que vient-elle faire dans l'univers
En fait, Béatrice Dalle, assez étonnamment, a suivi l'élaboration de la chose, parce qu'on est en correspondance. Et pour moi, c'est aussi ça. C'est une part féminine panagérique très très forte du bouquin, même si elle apparaît comme ça. Et en fait, autant quand il y avait ma femme Marlène qui suivait le truc, d'hommes, des lecteurs, on va dire, plus proches et privilégiés du livre, Béatrice a eu des primeurs aussi où je lui ai envoyé des trucs parce qu'elle a une réaction d'une grande sincérité avec une animalité très très forte, réactionnelle. Et donc elle lit Pasolini sur scène en ce moment, etc., avec des pentes. Et c'est quelqu'un qui ça ment pas et ça jure, c'est direct au niveau du retour et c'est passionnant. Voilà. Et donc elle apparaît, oui, tout à fait, ouais, tout à fait.
Bon, le grand maître du temps nous signale que c'est la fin. Okay. La demi-heure est passée. Dommage, parce qu'on aurait pu continuer.
Bien sûr, ouais. Et je vous remercie de m'inviter. Parce que
et on va faire une petite pause cramps.
Génial.
Je profite pour dire qu'on est donc en direct de la Bourse au Disque, la convention, comme on dit, du disque et de la BD Place des Halles, et que il y a du cramps. Je peux le prouver. Bien J'en sûr. Ai acheté ce matin.
Okay.
Voilà. Super. Et on va s'écouter I'm a Teenage Werewolf. Okay. Voilà. Par nos amis Cramps. Merci Merle,
Pascal, merci Odile, merci Thomas, voilà, merci.
Pour ce livre.
Merci.